c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, programme de réhabilitation d'anciens combattants d'Al-Shabaab en Somalie, lutte contre les mariages précoces au Cameroun, la cherté des loyers fait grincer les dents à Conakry, rubrique santé, le point sur la lutte contre le paludisme, enfin gros plan sur des voitures solaires et électriques produites au Togo. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. En Somalie, des centaines de militants du groupe islamiste Al-Shabaab, qui ont fait défection, se voient offrir une seconde chance. Un programme appuyé par l'ONU les aide à préparer leur réintégration au sein de la société. Le reportage à Baïdoa de Jason Patinkin, présenté par Lionel Gaïma.
Des jeunes gens jouent au football dans un complexe fortifié de Baïdoa, une scène courante en Somalie, sauf qu'il s'agit d'anciens combattants d'Al-Shabaab. Ils sont 160. Après leur défection, ils ont été enrôlés dans un programme de réhabilitation qui leur évite d'aller en prison. L'un d'eux avait rejoint Al-Shabaab après que son père a été tué par les troupes éthiopiennes combattant les islamistes en Somalie. 6 ans plus tard, il s'est enfui, écœuré par les attaques des islamistes contre les civils. Toujours menacé de mort, il a demandé à s'exprimer sous anonymat. J'ai perdu 6 années de ma vie. Les camarades avec qui j'étais au lycée sont à l'université et ils sont optimistes. J'espère les rattraper avant d'atteindre 30 ans. Le centre de réhabilitation propose aux anciens militants d'Al-Shabaab divers cours, y compris la religion. En outre, ils élaborent des projets pour les aider à se prendre en charge une fois sortis du centre. Mais il sera difficile de se défaire complètement du passé, reconnaît cet ancien membre d'Al-Shabaab. Je ne peux absolument pas aller où Al-Shabaab est présent. Et si je vais en ville, la communauté ne se sent pas en sécurité. Le mieux est de rester dans le centre jusqu'à ce que le temps passe et que la communauté soit mieux informée à notre sujet. La réhabilitation des anciens militants islamistes prend du temps, notamment du fait de points de vue extrémistes de certains, souligne l'enseignant de cours de religion qui s'exprime lui aussi sous anonymat. Certains argumentent avec vous, alors nous leur disons, si vous croyez ceci et nous cela, essayons-nous donc avec le Coran et les hadiths. Faites leurs recherches et si votre interprétation est correcte, nous l'acceptons. Si la mienne est correcte, nous l'utilisons. À ce jour, aucun des anciens militants réhabilités dans le centre de Baïdoa n'est retourné dans les rangs d'Al-Shabaab. Le processus est loin d'être parfait. Par ailleurs, les habitants locaux se demandent pourquoi d'anciens terroristes bénéficient de toute cette sollicitude alors qu'eux ne reçoivent rien. Patrick Lutz, de la mission d'assistance de l'ONU en Somalie, estime que ce centre joue un rôle vital. Cela, en quelque sorte, rassure certains groupes au sein d'Al-Shabaab pour qu'ils prennent contact avec le gouvernement actuel et disent « entamons de pourparler de paix ». Pour ce responsable onusien, c'est l'offre d'une seconde chance, une goutte d'eau dans la mer, mais une goutte d'eau au bon endroit.
L'Afrique des nations féminines qui s'est déroulée du 19 novembre au 3 décembre au Cameroun, le pays a choisi de lancer une campagne de sensibilisation pour lutter contre les mariages précoces. À l'occasion de ce temps fort du foot, des efforts ont été déployés pour sensibiliser les chefs traditionnels dotés de plusieurs épouses, dont certaines ne sont que des adolescentes. Morgane Guiriec.
Durant la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2016, plusieurs groupes de danse profitent de leur spectacle pour témoigner leur solidarité envers Awa, 19 ans, qui a été forcée de se marier à un chef traditionnel à 14 ans.
J'ai été parce que mes parents étaient pauvres et parce qu'ils ne voudraient pas abandonner la tradition. J'étais déprimée, stressée, parce que je n'étais pas prête pour assumer les responsabilités du mariage. J'ai eu un enfant, alors que moi-même, je n'étais qu'une enfant. Aujourd'hui, je pleure 5 années perdues de ma vie qui m'auraient permis de réaliser de grands rêves et certainement d'avoir un mariage épanoui. J'imagine-vous avec moi combien de jeunes filles ont vu leur rêve brisé de cette façon-ci.
Dans la foule, Joseph Kameni, chef traditionnel de Bassap, une localité de l'ouest du Cameroun. Il est marié à 24 femmes.
Quand une chefferie est peuplée, quand vous passez devant une chefferie, vous entendez comment la chefferie gronde. C'est parce qu'il y a la population, il y a le monde. Une chefferie où il n'y a pas beaucoup de femmes, ça veut dire qu'il n'y aura pas suffisamment de monde. Hein? C'est plus il y a beaucoup de monde, c'est plus la chefferie devient très solide. C'est ça qui fait la base d'une chefferie. Une chefferie qui a 3-4 enfants, une femme. Vraiment, vous n'allez pas sentir que c'est une chefferie. Une chefferie doit avoir, quand tu passes, tu entends comment ça boue là-bas dedans, tu dis que oui, voilà une chefferie. On sait que tu as 2 mois ou trop pour qu'une des femmes conçoive. C'est ça qui fait la fierté d'un chef. 40, 30 quelque chose de femmes. Mon grand-père avait 36 femmes.
Le roi Kameni dit compter sur sa grande famille, formée par son père et son grand-père, pour nourrir ses épouses et ses centaines d'enfants. Au Cameroun, il est très fréquent de voir les chefs traditionnels se marier à beaucoup de femmes. Et du coup, les organisations non gouvernementales, le gouvernement, les Nations Unies et l'Union africaine ont décidé d'utiliser la Coupe d'Afrique des Nations pour soulever des préoccupations, notamment le sort des adolescentes contraintes de se marier. Selon Barbara Sow, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Cameroun, l'organisation met en œuvre des programmes pour protéger les adolescentes.
Il y a 2 stratégies. D'abord, les groupes d'hommes se réunissent pour tenter de déterminer comment les hommes entre eux peuvent discuter de ces filles mariées à 13 ou 14 ans. En tant que chef de famille, en tant que père, ils prennent les meilleures décisions pour eux-mêmes, pour leurs épouses et pour leurs enfants. Très souvent, les individus sont prêts à prendre une décision, mais ils estiment que la pression de la société est trop grande.
Kosasana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a assisté à la cérémonie pour encourager une lutte continentale contre les abus sur les droits des femmes et des filles.
Nous sommes venus exprimer notre reconnaissance envers le Cameroun qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nous sommes très désireux de promouvoir les femmes. Nous sommes donc très heureux d'avoir discuté de l'agenda 2063, qui est le programme de l'Union africaine.
L'agenda 2063 de l'Union africaine plaide pour un effort concerté vers l'arrêt d'ici 2020 et des mariages des enfants, des mutilations génitales féminines et autres pratiques culturelles néfastes qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. En attendant, le nouveau code pénal camerounais s'oppose au mariage multiple en réservant des peines d'emprisonnement pour les conjoints adultères et en augmentant le coût de prise en charge des familles nombreuses.
Direction Conakry, où la hausse des loyers qui ne sont pas réglementés fait beaucoup de mécontents. Un groupe de députés s'est mobilisé pour tenter de faire voter une loi et des citoyens mécontents ont même fait circuler une pétition pour dénoncer les loyers chers. Reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
À Conakry, les loyers varient d'un quartier à l'autre et trouver un logement n'est pas une sinécure.
Vous allez bien ?
Les rues de la capitale, l'endroit choisi par un groupe de jeunes pour obtenir plus de signatures contre le loyer cher à Conakry.
Donc quand vous nous faites une pétition, vous allez donner une voix à la cause.
Opération réussie, les organisateurs obtiennent une signature de plus.
J'ai payé 2 ans d'avance. Dans les 2 ans d'avance là, tout dernièrement on a fait 6 mois, il n'y a pas de douche. Le propriétaire vient récupérer l'argent. Il refuse de faire la douche.
La nouveauté, c'est une voiture qui sert de support pour les signatures. Plus de 2000 Guinéens ont utilisé le marqueur sur cet engin roulant. Dans la capitale, on ne se fait pas prier.
Si des citoyens se lèvent pour lutter contre le loyer cher en Guinée, nous devons tous ensemble, main dans la main, pousser les députés qui sont à l'Assemblée nationale afin de promulguer une loi qui ne serait-ce que là pour protéger le simple citoyen que nous sommes.
L'initiateur, c'est Tidjane. Ce jeune communicant veut mettre fin à une situation qui a créé un sentiment de ras-le-bol dans la capitale.
Voulez-vous payer 2 ans d'avance à quelqu'un alors que le SMIC en Guinée c'est 430 000, 440 000. Voyez tout ce désordre que l'État nous aide à réglementer ce secteur. Nous sommes fatigués, nous payons l'eau à l'État, nous payons le courant à l'État. Mais que l'État réglemente le secteur dans un premier temps, avant qu'on ait les logements sociaux, qu'on ait une loi réglementant le secteur comme l'a fait le Sénégal en 2014.
Il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour trouver un appartement à sa bourse à Conakry. Face à la crise, 3 députés ont introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Objectif, réglementer le secteur.
Dans cette proposition de loi, nous avons insisté et nous avons mis dans le texte la création de la CONAREL. La CONAREL sera la Commission nationale pour la régulation du loyer en Guinée. Alors c'est elle qui va statuer sur beaucoup de choses. Et l'une des innovations majeures aussi qu'il faut noter dedans, c'est que dans le texte, dans la proposition de loi, nous avons jugé utile de limiter ces loyers exorbitants qu'on demande aux locataires qui sont dans l'incapacité de pouvoir les payer. Alors cette fois-ci, c'est 1 mois de loyer que nous exigeons et 2 mois de caution.
Le gouvernement guinéen a promis la construction des logements sociaux, mais cela pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. En attendant, les Guinéens comptent sur l'Assemblée nationale et espèrent obtenir une loi qui réglementerait le secteur des logements en République de Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Rubrique santé à présent et nous faisons un point cette semaine sur la lutte contre le paludisme. Au Mali, le centre de recherche et de formation sur le paludisme de Bamako tente de mettre au point un vaccin contre la malaria. Kadiatou Traoré a joint le directeur du centre, le professeur Ogobara Doumbo.
Comme vous savez que la Société américaine de médecine tropicale est la plus grosse société dans le monde qui réunit tous les spécialistes dans le monde sur les maladies parasitaires, virales et bactériennes qui sont endémiques dans nos pays. Donc le Malaria Research and Training Center et tous les programmes que nous avons avec les Américains doivent venir présenter les résultats au niveau international pour se faire connaître entre le Mali et montrer la visibilité de la recherche malienne au niveau international.
Alors, vous êtes un grand chercheur et depuis plusieurs années maintenant, vous êtes sur la recherche d'un vaccin pour le palu. Où en êtes-vous sur ces recherches-là?
Voilà, c'est-à-dire, en fait, le plus important, c'est qu'en 1990, je suis venu pour la première fois à l'American Society avec le professeur Yaya Touré, nous étions 2. Et cette année, nous sommes plus d'une 30aine. Ça veut dire que le nombre de scientifiques maliens qui adressent cette question a augmenté. Nous travaillons sur les nouveaux médicaments. Et le Mali est le pays qui assume le leadership dans le développement de vaccins en collaboration avec les partenaires américains, européens et asiatiques. Et aujourd'hui, le niveau de développement des vaccins est tel que nous avons avancé des candidats à un niveau qui s'appelle la phase 2 d'efficacité chez les enfants. Et nous avons un candidat qui est vraiment en front line, pour lequel nous sommes actuellement en consortium, où le Mali aussi a été le premier à commencer à le tester. C'est-à-dire nous avons les résultats d'efficacité, les résultats de tolérance au niveau d'une petite proportion de volontaires. Mais nous sommes en train de réunir tout ça ensemble pour dire quand est-ce que nous allons descendre dans la population des enfants, qui est vraiment la population qui meurt de palu, et dans la population de femmes enceintes. Donc nous sommes à une rencontre de planification avec tous ces résultats.
On peut compter sur un vaccin très prochainement, très bientôt?
Non, nous ne disons pas ça, parce que la recherche vaccinale dans le domaine des maladies parasitaires est excessivement complexe. Donc j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas encore de vaccin utilisé en santé publique contre les maladies parasitaires. Les seuls vaccins dont on dispose, c'est contre les virus et les bactéries. Donc c'est tellement complexe que ça ne peut pas aller aussi vite. Mais ce que je peux dire actuellement, il y a des lumières, il y a des candidats qui sont vraiment en perspective heureuse et c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas, et ce n'est pas du tout intelligent ni honnête de vous donner un deadline parce que ce n'est pas possible.
Docteur Ogobara Doumbo, directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme de Bamako. Personnes décèdent chaque année du fait de la pollution de l'environnement au Togo. Le CO2 produit par les voitures serait l'un des facteurs les plus polluants. Pour limiter cette pollution, des voitures solaires et électriques sont désormais produites au Togo. Reportage à Lomé de notre correspondante Kaï Lawson.
Le Togo peut-il être considéré comme un pays qui fabrique des véhicules ? Oui, nous répond la société Le Monde de l'énergie. Cette structure vient de mettre sur le marché togolais des voitures hybrides qui fonctionnent à l'électricité et à l'énergie solaire. John Comlin de la société Le Monde de l'énergie.
Nous avons des problèmes de nuisances sonores dans la ville. Et ces voitures, c'est zéro bruit, c'est zéro carburant aussi. Elle n'a pas une portée seulement environnementale, mais une portée économique aussi. Puisque vous ne dépensez pas en carburant, vous ne dépensez pas aussi en vidange et en maintenance réelle pour des voitures à carburant.
Lancée il y a moins de 3 mois, la voiture togolaise séduit plus d'un et même au-delà des frontières. Le défenseur de l'environnement, le Ghanéen Wisdom Adjavlo, de retour de la COP22, a fait un tour au Togo pour apprécier le chef-d'œuvre togolais.
Honestly, it's a very good innovation.
Honnêtement, c'est une très bonne innovation. Ce que nous venons de voir est très encourageant pour l'avenir de l'environnement. Nous sommes convaincus que c'est un début et c'est quand beaucoup de personnes pourront avoir accès à ces voitures que nous pourrons dire « nous nous acheminons vers nos objectifs ». Ces voitures vont aider à réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré et pourquoi pas à 0 degré.
Not 1.5.
Parfait pareil, technicien au monde de l'énergie nous parle de l'autonomie de ces voitures hybrides.
De manière standard, nous avons des véhicules qui ont une autonomie de 120 km. Mais par rapport à cette autonomie, il faut aussi associer la part du soleil là-dedans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la personne est en train de rouler, il y a une partie de l'énergie dépensée qui est en train d'être rechargée par le panneau solaire. Donc les véhicules qui font 120 km pourront passer à 160 km ou 170 km.
Certains Togolais souhaitent en posséder, mais se retrouvent dans l'impossibilité faute de moyens. Ignon Vouti.
C'est vrai que le coût pour le moment n'est pas accessible à tous les Togolais, mais cette idée de voiture électrique ne vient que de démarrer. Donc je crois que par rapport à ce coût, une étude sera faite pour voir comment on peut mettre ça à la disposition du commun peuple.
Pour Sena Aluka de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Togo, le jeu en vaut la chandelle.
Vous ne payez pas de carburant, donc vous faites une économie importante. Et puis l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous ne tomberez pas malade de votre propre voiture. Actuellement, nos voitures nous rendent malades.
Les voitures hybrides made in Togo ont une vitesse maximale de 60 km/h, disposent de caméras de recul, de ventilateurs et de radios intégrées. Kaï Lawson, Lomé pour VOA Afrique. That's the largest.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le Nigérian Santi, connu également sous le nom de Ozibi, et un morceau de son dernier album, Horses. Bonne soirée et bonne nuit à tous. She don't believe in lies. Can't wait for me this time. Can't wait for me this time. Can't wait for me this time. She don't believe in lies. Hey, she calling me young Harley. I wrote a fast blips at the party. Got my phone off cause I wanna have a good time. While you over there staring at your timeline. Damn you, you should fucking leave. Damn me so fine, fuck I can't believe it. What I told her, she telling me, daddy, she wanna know. What you wanna, daddy, daddy, yeah, what you wanna know. You wanna, daddy, daddy, never let me go. What you wanna, daddy, daddy, her titties on the floor, yeah. With her legs in the air, oh no. Shorty says she never heard us haunted. Sound cool with the Harley. In the castle with the horses, looking at my city like a motherfucking tourist. Don't stop, yeah, she calling me babe. Santino, know you fucking crazy. When the bitches are closing trade, and they scream, oh no.